BW. Droits et libertés.
Mon corps est à moi, mon corps m'appartient. C'était l'un des slogans célèbres des luttes féministes en Europe dans les années 1970. Un slogan que pourraient reprendre à leur compte aujourd'hui des Marocaines qui se battent pour la liberté de disposer comme elles le veulent de leur corps. Et puis nous parlerons aussi en cette semaine de 30e anniversaire de la réunification allemande, d'une drôle d'amitié bien périlleuse entre un Allemand de l'Est et un Allemand de l'Ouest. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. En Afrique du Nord, quand on parle émancipation féminine et liberté des femmes, deux camps se font face en principe, le camp qu'on pourrait qualifier de progressiste et l'autre de conservateur ou traditionaliste. Ce qu'on a appelé les printemps arabes à partir de 2010 et surtout 2011 a entraîné de nombreux bouleversements dans les sociétés du Maghreb et désormais plusieurs constitutions garantissent l'égalité des droits entre les sexes. Mais les lois les plus anciennes ou le droit coutumier voient les choses un petit peu différemment. Au Maroc, par exemple, de nombreuses lois ont été adoptées ces dernières années pour garantir plus de droits aux femmes et les protéger de différentes formes de violence. Mais le code civil plus conservateur a tendance à pénaliser davantage les femmes, sans parler bien sûr de la morale toujours en vigueur.
Chez moi, tu fumes une cigarette, tu es une pute. Tu es habillée avec une robe, tu es une pute. T'as un petit copain, tu es une pute.
Loubna Abidar connaît le problème. Cette actrice a joué un rôle au cinéma qui lui a valu certes de nombreux éloges dans la presse internationale, mais aussi des menaces de mort dans son pays, le Maroc donc.
Me traiter de pute, c'est très bien, ça me dérange pas. C'est pas grave, j'ai grandi avec ça, j'écoute la pute. Il n'y a pas comme moi, beaucoup de femmes marocaines dans la rue, gratuitement, tous les jours, on a pris l'habitude.
Loubna Abidar avait le rôle principal dans le film Much Loved, sorti en 2005. Cette œuvre raconte la vie de prostituée dans le temple du tourisme et donc du sexe qu'est Marrakech. Or, la prostitution au Maroc, c'est interdit, bien que répandu. Loubna Abidar a été agressée dans la rue à cause de son rôle au cinéma, menacée de mort, je vous le disais tout à l'heure, donc harcelée au point même de devoir quitter son pays. Dès qu'on parle du corps féminin et de la liberté de ce corps de se choisir, de se mouvoir, de s'émouvoir, ou même de se parer comme il l'entend, le scandale n'est pas loin. Zainab Faziki aussi en a fait les frais. À 26 ans, elle dessine. Elle dessine des BD depuis des années maintenant qui montrent des corps de femmes nues, une façon pour elle de prendre part au débat sur le sexisme et les violences sexuelles.
Hachouma, c'est un mot en dialecte marocain. Il veut dire tais-toi, il veut dire honte et on l'utilise à chaque fois. On commence un débat sur la sexualité, les tabous. Et donc pour moi, c'est un mot qui m'a traumatisée, qui a marqué mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, et parce que je suis une Marocaine libre et je dessine la nudité, donc j'entends le mot Hachouma 1000 fois par jour, et donc j'ai décidé tout simplement de créer un livre qui détaille cette culture de Hachouma.
Sur les réseaux sociaux, on trouve des groupes où hommes et femmes parlent ouvertement de leurs escapades sexuelles, mais pourquoi le corps féminin fait-il donc l'objet de tant d'attention? Eh bien, pas seulement à cause de la loi, de l'avis de Sana El Hadji, une sociologue spécialisée dans les recherches sur la sexualité au Maroc, justement.
Énormément de jeunes, n'importe qui au Maroc aujourd'hui, vous allez lui demander s'il s'est déjà fait arrêter ou déjà fait embêter par un flic parce qu'il était en couple, ou si voilà, il a déjà été complice d'un avortement ou eu un avortement, tout le monde dira oui.
Sana El Hadji estime que le fait même que les sujets tabous traditionnellement puissent être maintenant discutés de façon plus ouverte, même si les discussions sont parfois empreintes de violence, rien que ça, c'est déjà un progrès. Les athées, les homosexuels, les chrétiens peuvent désormais faire entendre leurs paroles, parfois même en montrant leur visage, en donnant leur vrai nom, ce qui aurait été impensable il y a quelques années encore. Les groupes en faveur des droits des femmes font du bruit sur le net dans l'espoir de faire bouger peu à peu la société de l'intérieur dans le monde virtuel, puis un jour dans la réalité.
Le corps féminin cristallise les questions identitaires, les questions, ce qu'on appelle la problématique de l'honneur, de la famille, de la tribu, du pays, etc. La relation à la famille, à la culture, à la religion, aux valeurs, etc. Et de l'autre côté, ben, il y a des mouvements collectifs et individuels de libération. Donc effectivement, oui, c'est un champ de bataille.
Toujours à l'écoute du magazine Droits et Libertés, on poursuit avec un petit peu d'histoire. Le 3 octobre de cette année, l'Allemagne va célébrer les 30 ans de sa réunification. Alors, on en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne, mais un petit rappel ne fait jamais de mal. L'Allemagne a été séparée en deux États distincts entre 1949 et 1990. C'était le résultat de sa défaite de la Seconde Guerre mondiale. À l'ouest, la RFA, rattachée au camp occidental durant la guerre froide, et à l'est, la RDA, proche de l'Union soviétique. La frontière entre les deux Allemagnes était totalement étanche, et des décennies durant, de nombreuses familles ont été séparées, des amis n'ont pas pu se voir. Le régime de RDA à l'est était très sévère, la vie pas simple. Alors beaucoup d'Allemands de l'est ont tenté de fuir pour passer de l'autre côté. Et c'est justement de ce type d'histoire qu'il est question tout de suite. Écoutez celle de ces deux amis. En 1978, en vacances dans un camping, Eckhard Zellbach sympathise avec Eckhard Walter, un Allemand de Berlin-Est.
C'était une sorte d'amitié germano-allemande à une époque compliquée. Dès nos premières rencontres sur la plage, le mur de Berlin ne pouvait pas nous empêcher de nous apprécier. On s'est rencontrés au camping, on était une bande de jeunes, on a sympathisé. On parlait des choses de notre âge, on se moquait du rideau de fer.
Eckhart n'oubliera jamais une question que lui a posée son ami de l'Ouest.
Eckhart, est-ce que tu t'enfuirais si tu le pouvais ? Je lui ai dit que c'était même pas possible en rêve. Jamais je ne lui aurais demandé de m'aider. Rien que d'y penser, c'était interdit.
Et puis finalement, une idée a germé. Eckhart, le colonel, s'est mis en tête d'aider son ami est-allemand à s'échapper d'Allemagne de l'Est. Et il a accepté, sans trop savoir vraiment dans quoi il s'engageait, à l'aider. De retour chez lui à Cologne en RFA, il s'est donc mis à chercher des moyens pour aider son ami Eckhart. Le transporter de Berlin-Est à Berlin-Ouest dans le coffre de sa voiture, c'était trop dangereux. Lui envoyer un faux passeport de l'Ouest pour qu'il passe en Bulgarie puis en Turquie, impossible. Alors quelques mois plus tard, Eckhart a donné ce conseil à Eckhart. On va employer la manière forte, il faut que tu descendes le Danube à la nage. Eckhart a été surpris sur le moment.
Je n'avais jamais pensé à m'enfuir avant. La frontière était tellement hermétique avec des tirs automatiques, des mines antipersonnelles. Ça aurait été du suicide. Ça ne m'avait pas traversé l'esprit.
Les deux hommes ont alors commencé à préparer leur projet un peu fou. Walter s'est entraîné tous les jours à la natation pour améliorer sa condition physique. C'était au printemps 1978. Eckhart Zellbach a quitté Cologne à 5h un matin. 22 heures de route et 1600 km plus tard, il arrivait en Hongrie. Le soir vers 20h, Eckhard Valta avait enfilé une combinaison de nageur, un masque, des palmes, un tuba. Il s'était grimé le visage en noir pour être moins visible dans la nuit et il s'est glissé sans bruit dans l'eau froide du fleuve. Et c'est seulement à ce moment-là qu'Eckhard Selbach, l'Allemand de l'Ouest, donc, s'est rendu compte de la dangerosité de leur entreprise. Son ami était, avec son aide, en train de risquer sa vie. S'il était pris en train de fuir la République démocratique allemande, il pouvait être tué sur le champ. Il s'est rendu en Yougoslavie pour attendre dans l'angoisse l'arrivée de son ami par le Danube. Pendant ce temps-là, le nageur aussi avait peur à chaque bateau qu'il entendait approcher. Il croyait que sa dernière heure avait sonné. Et à la frontière avec la Yougoslavie, des projecteurs balayaient la surface de l'eau. Eckhart a pris sa respiration et il a gardé la tête sous l'eau jusqu'à ce que la lumière s'éteigne. Finalement, il est parvenu à gagner la Yougoslavie. De là, les deux compagnons ont réussi à passer en Autriche et donc à quitter l'Europe de l'Est grâce à un faux passeport ouest-allemand qu'Eckhart avait emprunté à un ami de Cologne qui ressemblait un petit peu à Eckhart, le Berlinois de l'Est. Ils avaient pris soin avant, bien sûr, de détruire tous les papiers de RDA. Les douaniers n'y ont vu que du feu et les ont laissés passer.
C'était incroyable. Il a allumé la radio dans la voiture. C'était une station autrichienne et il passait la chanson de Bill Withers, It's Beautiful. Et ça collait tellement avec le moment, j'en ai pleuré de joie.
10 ans plus tard, en 1989, Eckhart n'en a pas cru ses yeux de voir le mur de Berlin disparaître aussi vite. Et après, en 1990, est donc venue la réunification des deux Allemagnes. 30 ans plus tard, les deux hommes sont toujours amis. Eckhart ne comprend pas les nostalgiques de la RDA. Tout comme Eckhart, il se sent allemand, tout court, ni de l'Est, ni de l'Ouest. C'est la fin de ce magazine. Merci à Dunia Sadaki pour les sons du Maroc et à Astrid Prang pour l'histoire des deux Allemands. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet tw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.